Pour ce 14e entretien de Civis Podcast, on reçoit Julia Cagé. Julia Cagé est économiste et professeure à Sciences Po. Elle travaille en particulier sur l'économie des médias et le financement de la démocratie. Elle est à ce propos auteure du livre « Sauver les médias » publié au Seuil dans la collection « La République des idées » en 2015, qui a depuis été traduit en 10 langues. En 2018, elle a écrit « Le prix de la démocratie » publié chez Fayard, et on la reçoit aujourd'hui sur Civis à l'occasion de la sortie de son livre « Libre et égaux en voix » également publié chez Fayard. Depuis 2020, Julia Cagé est présidente de la Société des lecteurs du journal Le Monde et elle a lancé en juillet 2020 avec cette même Société des lecteurs et le pôle d'indépendance du journal Le Monde l'association Un bout du monde, qui vise à la reconquête citoyenne de l'actionnariat des médias d'information. Je précise que notre entretien a été réalisé avant le confinement et dans le respect le plus strict des mesures sanitaires et j'espère que cet entretien vous plaira.
Julia Cagé, bonjour. Vous êtes économiste, vous avez sorti récemment un livre de propositions. Vous faites des constats scientifiques et des propositions concrètes extrêmement riches, on ne va pas pouvoir tout aborder malheureusement. Votre livre est structuré autour de 5 chapitres, intitulé « Garantir le pluralisme, garantir l'égalité de la représentation, reconquérir la démocratie, retrouver le bien public et investir les médias ». Vous démarrez votre livre par ces mots « La démocratie n'existe pas, elle reste à inventer ». Moi, ça m'a fait penser au slogan des Gilets jaunes sur... contestant la démocratie représentative pour et prônant plus de démocratie directe. C'est ça que vous demandez?
Oui, moi le point de départ de mon livre, ça a été surtout de m'élever contre tout ce discours bien pensant ambiant qui consisterait à dire que les citoyens auraient renoncé complètement à la démocratie aujourd'hui, voudraient une démocratie ou seraient en faveur de ce qu'on appelle la démocratie illibérale. Et finalement, ce discours-là, il évite d'avoir à s'interroger sur tous les dysfonctionnements de la démocratie. Donc par exemple, je sais pas, moi, les gens vont moins voter, il y a une baisse de la participation électorale. Il ne s'agit pas d'excuser hein, les gens qui ne vont pas voter, mais on va nous dire automatiquement « Ah, les gens sont paresseux, ils arrêtent d'utiliser leurs droits civiques ». Bon, moi, je pense qu'il faudrait s'interroger sur la raison pour laquelle les gens arrêtent de croire à l'élection et ne croient plus, finalement, à la représentation. Les gens font plus confiance aux médias, on va les traiter tout de suite de crédules, plutôt que s'interroger sur les dysfonctionnements actuels de l'actionnariat des médias. Et du coup, le point de départ de ce bouquin, c'était de dire « Mais attendez, regardons vraiment ce qu'on voit dans les chiffres, regardons vraiment ce que nous disent les manifestations, les enquêtes, les sondages. Moi, je vois plutôt une demande de plus de démocratie. » Et de ce point de vue-là, les Gilets jaunes, c'est une demande de plus de démocratie. Mais une fois qu'on a formulé ça comme ça, bah, du coup, il faut bien s'interroger sur tout ce qui ne fonctionne pas dans la démocratie actuelle et qu'il faudrait changer pour répondre justement à cette demande de davantage de démocratie.
Généralement, les distinctions qu'on entend, c'est les distinctions entre démocratie représentative et démocratie directe. Vous, là, vous faites une distinction qui est assez que j'avais jamais vue avant, la distinction entre démocratie représentative et démocratie descriptive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Ouais. Alors c'est un concept, la démocratie descriptive, que j'ai pas inventé. Je la reprends à une philosophe et chercheuse en sciences politiques états-unienne qui s'appelle Anna Pitkin et qui a écrit sur ce sujet dans les années 1950, qui pour moi est une philosophe qui est complètement sous-étudiée, mais qui définit justement dans les années 1950, à la suite d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale, et ça s'inscrit dans toute une démarche un peu aussi dans le même esprit que ce que fait Arendt, en fait, de compréhension de ce qu'a été la période de montée des fascismes. Et elle prend différentes conceptions de la représentation, et parmi celles-là, elle dit la représentation descriptive. C'est quoi la représentation descriptive? C'est d'avoir des représentants à l'image de la société. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez plus ou moins une moitié de femmes aujourd'hui parmi les électeurs, donc il faudrait une moitié de représentants femmes. Vous avez la moitié à peu près de la population active qui est composée de catégories populaires. Il faudrait une moitié de représentants catégories populaires. Vous avez des minorités visibles. Il faudrait une juste représentation de ces minorités visibles, etc. Alors on peut se demander pourquoi finalement, parce qu'il y a la réaction automatique, c'est de dire oui, mais finalement, pourquoi un homme serait moins bien qu'une femme pour aller nous représenter? Pourquoi un ouvrier serait moins bien qu'un dentiste pour nous représenter? Est-ce qu'un noir voterait différemment d'un blanc? Et du coup, il y a deux points très importants que je fais dans le livre. Le premier point, enfin il y a trois points d'ailleurs. Le premier, c'est un constat. Le constat, c'est que si vous reprenez notamment la représentation des classes populaires, elle s'est dégradée au cours des dernières années. C'est-à-dire si on prend la composition de l'Assemblée nationale en France, du Parlement britannique, de la Chambre des représentants aux États-Unis, on a une représentation de plus en plus faible des classes populaires. Ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est un problème en soi. Donc, il faut l'affronter de face. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas vrai de dire que les femmes votent comme les hommes ou que les ouvriers votent comme les cadres dirigeants. Ça a été documenté. Ça a été documenté. Je fais référence à beaucoup d'études en économie dans le cas des femmes. Vous avez Nicolas Carnès, qui est un politiste états-unien que je vous recommande beaucoup, qui documente, lui, la manière dont votent justement les ouvriers et dont votent les cadres au Parlement états-unien. Et il montre que justement le fait d'avoir été ouvrier ou cadre, ça ne vous fait pas voter de la même manière sur énormément de problématiques, notamment économiques. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ça ne veut pas dire du tout que ça serait mieux d'être dirigé que par des femmes plutôt que d'être dirigé que par des hommes. Ça veut dire que chaque problème est un problème complexe, et pour répondre au mieux à ce problème complexe, c'est bien d'avoir une multiplicité, une hétérogénéité de points de vue. Le troisième point, et ça, faut pas l'oublier, je pense, c'est que même si ça n'avait aucune différence en termes des politiques menées, c'est-à-dire que même si les femmes votaient comme les hommes, les ouvriers, comme les cadres, les minorités visibles, comme les blancs, etc., même si ça n'avait aucune différence, c'est une violence extrêmement forte aujourd'hui que de ne pas avoir pour toute une partie de la population de représentants à son image. C'est une violence pour les femmes de ne pas avoir de représentante femme. Ça s'améliore petit à petit, mais on voit que, par exemple, pour les plus hauts postes de pouvoir, Premier ministre en France, il y a une femme, c'est tout, et encore, c'était il y a 20 ans. Président, il n'y en a jamais eu, il n'y a jamais eu de présidente femme aux États-Unis. Bon. Pour les catégories populaires, c'est aussi extrêmement violent, parce qu'en fait, ça vient nous interroger comme groupe sur notre capacité à être leader, gouverner, prendre des décisions. Et ça, je pense que c'est aussi au cœur aujourd'hui de la crise du système démocratique.
La complexité, c'est justement d'organiser cette représentativité réelle. Donc vous proposez une assemblée mixte. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça et juste concrètement savoir jusqu'où on va dans la représentativité? Est-ce qu'il faut des quotas ethniques? Parce que c'est ça les questions qu'on doit vous poser.
Je vais commencer par la première question, comment on fait concrètement sur ma proposition, puis je vais affronter la deuxième ensuite, qui bien sûr est la plus complexe. Sur la première question, moi je dis que voilà, on va prendre aujourd'hui les élections législatives en France et on va imposer deux conditions. Pour qu'un parti puisse présenter des candidats aux élections législatives, il doit présenter une moitié de candidats femmes et une moitié de candidats issus des classes populaires. Employés, ouvriers, travailleurs précaires, chômeurs, etc. Et parmi les élus de ce parti, on doit avoir entre 40 et 60% de candidats femmes, d'élus femmes et 40 et 60% d'élus de catégorie populaire. Je tiens à souligner d'ailleurs qu'on se parle aujourd'hui, donc on est le 26 octobre. Hier, il y a eu un vote extrêmement important au Chili, un référendum qui aboutit sur l'organisation d'un vote pour élire une assemblée constituante. C'est la première fois qu'on a, dans les règles de constitution de cette assemblée constituante, le fait d'avoir entre 45 et 55% de femmes. Donc on va avoir une constituante paritaire, il va y avoir une élection quand même, mais on va mettre des règles pour faire en sorte que cette élection aboutisse sur une assemblée paritaire. Voilà, c'est pareil. Avec la parité homme-femme et avec la parité que j'appelle sociale, c'est-à-dire aussi une juste représentation des catégories populaires. On s'arrête. Je pense qu'il faut pas refuser d'affronter cette question, mais pourquoi je me suis arrêtée aux femmes et aux catégories populaires? Pour deux raisons. On aurait pu prendre d'autres dimensions, par exemple la question des origines ethniques, quand on parle des minorités visibles, et la question de la sexualité. Sur la sexualité, je pense que c'est pas... Il faut pas le prendre en compte, contrairement à certaines demandes, parce que la plupart des gens ne veulent pas être définis par leur sexualité. Déjà, la sexualité peut être changeante, vous avez le droit d'être bisexuel, hétérosexuel aujourd'hui, homosexuel demain, etc. Je pense que c'est un peu comme la religion, ça ne doit pas relever des choses que vous avez à exposer publiquement. Sur la question des minorités visibles, il y a énormément d'individus qui, pareil, ne veulent pas être enfermés, finalement, dans leur origine ethnique. Et qui ne veulent pas être renvoyés à l'origine ethnique de leurs parents. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question qu'il ne faut pas prendre en compte, notamment parce qu'on voit qu'aujourd'hui, si vous faites partie de telle ou telle minorité visible, vous avez des discriminations qui sont extrêmement fortes pour accéder au logement, mais également à l'embauche. Ça a été très bien documenté pour l'accès à l'emploi, hein, notamment avec l'envoi de CV anonyme. Vous n'avez pas la même chose d'avoir un job si vous appelez Mohamed ou Mathieu, même si vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire toutes les bonnes études, cocher tous les bons diplômes, etc. Mais du coup, ça se pose au niveau de l'Assemblée derrière. C'est juste que c'est un peu... Ça rajoute une sorte de violence presque, d'obliger des gens à se définir par rapport à leur origine familiale. Peut-être qu'il faut aller jusqu'à ce point-là. Peut-être pas. Mais en tout cas, ça interroge.
Est-ce qu'on peut pas, justement, sur votre raisonnement sur l'enfermement dans une religion, etc., on ne peut pas l'appliquer aussi aux classes sociales? Est-ce que les gens n'ont pas forcément envie d'être représentés ou d'être enfermés comme ou employés, ouvriers, etc.? Je ne sais pas si c'est très clair
ce que je dis, mais... Non, mais ça, c'est votre métier. Mais par exemple, quand vous cotisez à votre caisse de retraite, vous avez une caisse de retraite différente pour les cadres ou pour les non-cadres. Vous allez au prud'homme... Ah bah c'est très, très simple, si vous faites licencier, vous allez au prud'homme. Les conditions qui vont s'appliquer pour la constitution du tribunal au prud'homme dépend de si vous êtes cadre ou non cadre. Vous n'êtes pas enfermé en plus, parce que vous pouvez en changer. Là, c'est la profession avant que vous arriviez à l'élection. Bon, ensuite, si vous passez d'ouvrier à cadre ou de cadre à ouvrier, vous changerez finalement de groupe. Mais ça vous définit déjà aujourd'hui. Quand l'INSEE vous interroge pour faire un recensement, l'INSEE vous demande votre catégorie socio-professionnelle.
Le sens de ma question, c'était plutôt, est-ce qu'on ne peut pas se sentir représenté par quelqu'un qui n'est pas
sûr.
Ça
Mais c'est pas ça qu'on dit. En fait, quand je dis qu'il faut au moins une moitié de candidats femmes, une moitié d'élus femmes, une moitié de candidats catégorie populaire et une moitié d'élus catégorie populaire, moi, ça veut pas dire que comme femme, je vais pas voter pour un homme. En fait, c'est comme groupe que ça vaut. Et ça veut pas dire que vous, comme ouvrier, vous allez vouloir vous présenter pour représenter les ouvriers. En fait, c'est une question... C'est des règles qu'on doit mettre en place jusqu'à temps que la parité ne se fasse pas d'elle-même, d'une certaine manière. Si la parité se faisait d'elle-même, on n'aurait pas besoin de l'imposer par des règles. Ça serait un peu automatique. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que vous avez très peu encore de conférences, de plateaux, télé, etc., où les gens ne vont pas compter pour voir « Ah, mais est-ce qu'on a bien ?» Bon, parce qu'en fait, c'est pas un truc qui se fait naturellement et qu'on a ce déficit de représentation. Le jour où on aura résolu ce déficit de représentation, on n'aura plus à se poser ces questions-là.
Ça, c'était le premier volet de votre proposition, l'Assemblée mixte. Et le second volet, et vous avez beaucoup travaillé, comme j'ai dit, sur le financement des médias et des partis, c'est sur le financement des partis. Vous proposez un système aussi qui est très innovant, c'est vraiment une proposition innovante, sur un système qui supprime le système de dons tel qu'on le connaît actuellement et qui propose un système de bons démocratiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Et ensuite, j'ai des questions un peu plus précises.
L'idée d'avoir écrit ce livre, Libres et égaux en voix, c'était d'une certaine manière, ça s'inscrit à la suite du prix de la démocratie. Le prix de la démocratie est un livre plus lourd à lire, plus long, où il y a plus de chiffres, qui avait mis beaucoup l'accent sur le constat, en mettant à jour un certain nombre d'inégalités, et notamment d'inégalités politiques. Mais du coup, j'avais un peu l'impression parfois que les propositions qui étaient faites étaient noyées sous le poids du constat. C'est pour ça que là, j'ai commencé directement par les propositions. Au moins, c'était un peu plus simple. Mais il faut quand même avoir le constat en tête pour comprendre d'où viennent les propositions. La raison pour laquelle je dis qu'il faut des bons pour l'égalité démocratique, ça vient de deux choses. D'une part, le fait qu'aujourd'hui, en France, on dépense énormément d'argent public pour financer les préférences politiques des plus riches. Ce sont les plus riches qui financent de manière disproportionnée la vie politique en France. Et leurs préférences politiques sont subventionnées aux deux tiers par la réduction fiscale, par l'État, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens. Quand un individu qui gagne beaucoup d'argent donne 7500 euros à un parti politique, en fait, il ne paie que 2500 euros. Les 5000 euros restants sont pris en charge par l'ensemble des citoyens. Ça, c'est le premier problème du système actuel. Le deuxième problème du système actuel, c'est qu'on a un financement de la vie politique qui est figé en partie par intervalle de 5 ans, puisque l'autre moitié, donc la première moitié du financement public, c'est la réduction fiscale, la deuxième moitié du financement public, c'est l'aide directe aux partis qui dépend des résultats aux dernières législatives. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en 2020, si vous aviez un nouveau parti en 2020, il ne pourrait pas obtenir de financement public direct avant 2022. La vie politique, elle n'est certainement pas figée par intervalle de 5 ans. Donc je voulais un système qui résolve ces deux problèmes, à la fois qui introduise un financement dynamique et qui réégalise chaque Français face au financement de la vie politique. Et c'est ça les bons pour l'égalité démocratique. Donc c'est 7 euros d'argent public donné chaque année à chaque citoyen qu'il peut allouer au parti politique de son choix.
Ma question, c'est qu'aujourd'hui, les Français ils se sont détachés des partis. La question, enfin, alors, ça se discute, mais il y a de nouvelles apparitions au municipal de listes citoyennes, etc., qui sont différents des partis. Et donc, est-ce que ce système-là, malgré tout le bien que je lui trouve, enferme pas la démocratie dans les partis?
Alors, il y a différentes choses. Donc, dans ce système-là, quelles sont les règles pour pouvoir bénéficier des bons pour l'égalité démocratique? Il faut réunir au moins 1% du total des bons. Donc, je voulais simplement mettre un seuil minimal, un peu comme on a un seuil minimal à la proportionnelle. Il ne fallait pas qu'il soit trop, justement, pour permettre le pluralisme et la diversité des partis. En même temps, il ne pouvait pas être trop bas non plus, parce que je ne veux pas que vous, demain, vous créiez votre propre structure pour accueillir votre bon pour l'égalité démocratique. Bon. Ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire que même si vous avez des listes citoyennes ou un mouvement de gilets jaunes, bon, recueillir 1% du total des bons, c'est pas non plus si important que ça, donc ça laisse une possibilité. Mais vous avez raison, et notamment pour ce qui est des élections locales. C'est pourquoi j'insiste, et je fais beaucoup plus d'ailleurs dans Libre et Égo en Voix, parce que j'ai eu la chance au cours des 2-3 dernières années de beaucoup discuter avec des acteurs de terrain, avec des hommes politiques, avec des partis, avec des gilets jaunes, avec des citoyens, avec des gens par exemple de tous élus. Il y a plein de mouvements qui se mettent en mouvement justement pour favoriser des candidatures citoyennes et voir ce qu'on pourrait faire de mieux. Et il y a un truc qu'on pourrait faire de mieux qui est un peu morné parce que c'était François Bayrou qui portait ça dans la vie politique française. Il a beaucoup de défauts, François Bayrou, mais il faut aussi reconnaître les bonnes idées là où elles sont. C'était cette idée de banque de la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'une des difficultés actuelles en France, c'est la question du remboursement des dépenses de campagne. Bon, dans le financement public, là, on a parlé du financement des partis, mais l'autre partie du financement public, c'est le remboursement des dépenses de campagne. Donc si vous vous présentez au municipal, par exemple, vous pouvez être remboursé à hauteur de 47,5% du plafond de dépenses par l'État. Ça suppose plusieurs choses, mais ça suppose surtout une chose qui est un peu embêtante, c'est un remboursement. Donc ça veut dire que ça suppose que vous ayez avancé l'argent. Et en fait, c'est ça aussi qui est un frein à une représentation des classes populaires aux élections. Si vous êtes aujourd'hui cadre supérieur, si vous êtes profession libérale, vous avez un peu de capital, etc., vous pouvez prendre ce risque financier, avancer l'argent et faire une campagne. Si vous êtes caissière avec deux enfants à charge, vous n'avez pas de quoi avancer cet argent. Et si vous allez voir une banque en lui disant « Mais attendez, moi je vais faire plus de 5% en premier tour, donc je serai remboursé par l'État, donc prêtez-moi 10 000 euros pour me présenter au municipal », votre banque va vous dire non. Et en fait, on a ce frein-là financier. C'est vrai que l'idée d'avoir un truc comme une banque de la démocratie pour aider des listes populaires au niveau local, populaires, citoyennes, au niveau local, à se présenter hors de la structure des partis, je pense que ça fait aussi partie de la solution.
Alors, il y a énormément de choses dans votre livre, et donc on ne va pas pouvoir tout aborder. Il y a une autre question annexe à votre livre que je voulais vous poser. Vous êtes avant tout économiste, et par rapport au contexte actuel, j'ai relu une tribune de vous sortie en 2011 dans La Tribune, justement, et intitulée « Pourquoi la France doit continuer à se désindustrialiser ?» Et du coup, je voulais avoir votre avis sur le texte, si vous le relisiez aujourd'hui. Renoncer à l'industrie pour...
Ah non, c'était une belle connerie, mais cette tribune, c'est vrai qu'on me l'a ressortie récemment. J'ai écrit ça en 2011. J'avais commencé ma thèse depuis 6 mois. Il faut quand même voir le titre, hein. C'est pas moi qui ai titré, c'est les journaux qui ont...
Non, justement, je voulais préciser, vous disiez « Renoncer à l'industrie pour devenir une économie de l'innovation ».
Exactement. En fait, ce que je dis dans la tribune, très concrètement, je dis qu'il faut davantage investir dans l'université, dans l'éducation et dans le secteur de la santé, ainsi que dans le secteur culturel. Et je rappelle toute la souffrance au travail associée à l'industrie, et notamment les 3-8, etc., les mauvaises conditions de travail. Et je dis que finalement, si on mettait beaucoup plus l'accent demain pour faire plus dans le secteur de la santé et de l'éducation, ça serait sans doute préférable. En fait, c'est ça la vérité de ce texte. Maintenant, quand je relis, c'est pas un très bon texte, c'est pas très bien écrit. Deux, quand je vois le titre que lui avait mis la tribune, je m'arrache un peu les cheveux. Mais comme quoi, on voit que Internet laisse des traces, même sur les conneries qu'on a pu faire. Voilà. Mais c'est vrai que là, non, pour le coup, ça pose une question. Là, c'est plus la spécialiste des médias qui vous parle sur le poids du titre, parce que notamment sur les réseaux sociaux. La manière de consommer l'information en scrollant un fil Twitter ou un fil d'info Facebook, en fait, vous arrêtez au titre, vous lisez pas le truc.
Et surtout que c'est comme ça que j'ai retrouvé la tribune.
Et le titre est con, mais il était pas de moi. La tribune n'est pas si bien. Mais en tout cas, elle dit surtout qu'il faut investir davantage dans l'éducation et la santé. Et ça, là-dessus, je n'ai pas changé d'un poil.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci à Julia Cagé d'avoir accepté cet entretien. L'entretien a été mené par Benjamin Floïc moi-même et les photos ont été prises par Ulysse Gutmanfort. Tous les entretiens sont à retrouver sur le site civispodcast.fr et sur nos réseaux sociaux. Pour toute suggestion ou question, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse civispodcast@gmail.com. À bientôt.